Bienvenue à Cancer de la prostate sans tabou, un balado produit par Procure dans le but d'aider, de soutenir et d'informer les hommes à risque, les personnes nouvellement diagnostiquées, les survivants et leurs familles. Le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu chez l'homme. C'est aussi la troisième cause de mortalité et au Québec seulement, 12 hommes par jour en reçoivent un diagnostic. Pourtant, c'est encore un sujet tabou pour plusieurs. Les balados Procure se veulent des discussions franches et transparentes avec patients, accompagnateurs, médecins, chacun avec leurs histoires personnelles et leurs expériences face à la maladie. Nous espérons que cet outil répondra à des questions que vous n'avez peut-être pas osé poser et surtout vous permettra de voir que vous n'êtes pas seul. Nous vous rappelons que Procure offre un service de soutien téléphonique et en ligne 7 jours sur 7 avec des infirmières spécialisées en uro-oncologie pour répondre à vos questions et vos inquiétudes. Nous sommes là pour vous et vos proches. Contactez-nous.
Alors, bonjour à tous et bienvenue à Cancer de la prostate sans tabou, notre série de balados qui, j'espère, répondra à certaines de vos questions ou préoccupations. Je suis Marie-Christine Beauchemin, votre hôte de Procure. Le thème d'aujourd'hui, le rôle du patient après un diagnostic de cancer de la prostate, est particulièrement intéressant car il met en lumière l'importance pour un patient de jouer un rôle actif tout au long de son parcours de soins. C'est pourquoi, sans plus attendre, je souhaite la bienvenue à notre invité, le Dr Daniel Lewinstein, chirurgien uro-oncologue à l'hôpital Charlemagne. Alors, bienvenue et merci, Dr Lewinstein, d'avoir accepté notre invitation à participer à ce balado.
Merci.
On va discuter un petit peu le rôle du patient en ce qui concerne la prise de décision liée aux options de traitement une fois qu'il a reçu son diagnostic. Mais d'abord et avant tout, j'aimerais savoir, en tant qu'urologue, quelle information fournissez-vous généralement aux patients lorsqu'ils sont diagnostiqués avec un cancer de la prostate?
Je pense surtout, évidemment, on va donner les diagnostics, on va être clair avec ça. On va donner c'est quoi le stade local? Est-ce que c'est une maladie qu'on pense qu'elle est à l'intérieur de la prostate? Alors, une T2, est-ce qu'on pense que c'est à l'extérieur, une T3? Également, l'important qu'on va donner maintenant, les diagnostics, on va parler de le groupe de glycine. Alors, le 1, c'est le moins agressif, puis le 5, c'est le plus agressif. Puis on va mettre ça clair au patient. Est-ce qu'il a un 1 qui est le moins agressif, qui n'a pas besoin de traiter? Est-ce que c'est un 2 que peut-être on n'a pas besoin de traiter? Ou est-ce que c'est un 3 qu'on devrait traiter? On va donner le chiffre exact au patient, puis également aux conjointes. Également, on va parler des choix de traitement. Alors, si c'est une maladie qui n'est pas agressif, des fois, on offre la surveillance active, mettons pour un niveau 1. Puis également, on va parler de traitement définitif pour des autres patients qui ont un cancer qui mérite ça, dont la chirurgie ou la radiothérapie. On va parler des choix de traitement, de chirurgie. Ça peut être une chirurgie ouverte qui est comme de moins en moins fait au Canada, au Québec. Puis également, on va parler aussi des autres choix, dont la chirurgie ST parabo, la chirurgie laparoscopique. Puis également, on va parler de l'option de radiothérapie à tous les patients. On va clairement parler des bénéfices puis des effets secondaires de chaque traitement. On va également parler de pronostic. On essaie d'être très honnête avec des patients. Ce que je remarque, c'est que des fois, des gens vont demander possiblement de ne pas donner un diagnostic ou de ne pas être clair avec leurs parents quand c'est patient qui est peut-être plus âgé ou parce que c'est une maladie métastatique, mais je pense qu'en 2023, tout est vraiment clair, qu'on devrait être transparent 100% avec le patient, qu'on donne une pronostic, puis on a des façons. Il y a certains patients qui ne vont pas savoir le pronostic, mais les autres qui vont nous poser des questions clairement. C'est quoi ma risque de récidive d'ici 5 ans? C'est quoi la chance que tu sois en vie dans 10 ans? Puis, on est quand même capable de répondre aux patients. On a des programmes, ce qu'on appelle en guillemets nomogramme ou une calculatrice sur l'Internet, souvent basée dans les sites universitaires aux États-Unis, qu'on peut donner des chiffres pas mal clairs avec une certitude autour de 80% aux patients. C'est quoi le risque de récidive à 5 ans? C'est quoi le risque que ce patient va avoir du chimio dans les prochaines 5 ans? C'est quoi le risque que ce patient va peut-être recevoir des hormones? C'est quoi le risque que le patient soit en vie dans les prochaines 5 ans, les prochains 10 ans, les 75 ans? Puis chaque patient est un peu différent. Puis si le patient nous pose plus de questions, bien, on va répondre plus. Également, chaque patient qui quitte le bureau, on va leur donner, quand c'est réel ou honnête, que oui, il y a un cancer. Ce que je pense que c'est très important à dire aux patients, que quand il y a un cancer qui est local, quand on dit au patient que oui, il y a quelque chose, mais c'est traitable, il faut que le patient reçoive le message qu'il y a quelque chose à faire, il y a une solution à son problème. On va également, moi je donne un livre à tous mes patients, celui qui a été fait par les urologues du Québec, qui est rédacté aux 2 ans par nous, qui est toujours à jour, qui donne des renseignements sur le diagnostic, le traitement, le pronostic. Puis quand c'est une maladie qui ne mérite pas de traitement tout de suite, à ce temps-là, je vais les revoir dans quelques semaines. Je vais donner un peu de temps de gérer le diagnostic, de gérer le fait qu'il y a un changement dans leur vie, puis de leur donner clairement le renseignement qui va être revu, qu'on va s'occuper de leur maladie.
Est-ce qu'il y a des moments où certains patients, une fois que vous leur avez donné toute l'information nécessaire sur leur maladie, ainsi que les choix de traitement, etc., finalement se retrouvent dans votre bureau, incapables de faire un choix, et vous demandent votre avis à vous, qu'est-ce que vous feriez, quel serait le meilleur traitement pour moi?
Je pense que c'est dur, mais si on parle d'une maladie métastatique, en général, pour des maladies métastatiques ou avancées, en général, il y a plus un traitement par étape. Par contre, pour une maladie locale, il y a quelques maladies qui sont claires. Alors, mettons, un niveau 1, une Gleason 6, ou ce qu'on appelle maintenant un Gleason group 1, c'est clair que c'est la surveillance active, donc il n'y a pas de choix. Mais quand ça devient une maladie plus agressive, mais locale, mais là, il faut faire un traitement, qu'est-ce que je réponds? C'est sûr, de façon classique, avant, c'est le médecin a dit au patient quoi de faire, mais c'est plus une relation maintenant en 2023. J'essaie de parler des études qui démontrent clairement qu'il y a un bénéfice de traitement. Puis également, j'essaie de regarder ce qui est important pour un patient. Comme par exemple, c'est sûr qu'un patient post-prostatectomie, quand on regarde les études de qualité de vie, en post-op, mettons 0 à 1 an, que la fonction érectile en général va être moins bonne par rapport à la radiothérapie dans le temps aigu. Mais par contre, à 5 ans, ça va être pareil que la radiothérapie. Par rapport aux problèmes urinaires qui vont parer les changements de problèmes urinaires dans le temps aigu de temps 0 à 1 an, mais que les deux, la chirurgie et la radiothérapie, vont être plus ou moins parés dans 5 ans. Donc, j'essaie d'expliquer des profils des effets secondaires aux patients, puis de leur demander c'est quoi tes besoins. On a quelques études qui disent que les chirurgies possiblement meilleures chez des jeunes patients, alors possiblement chez un jeune patient, qui est en santé, mais ce patient, peut-être, on va virer peut-être un peu plus vers la chirurgie. Par contre, un patient qui a des certaines maladies chroniques importantes, dont une obésité importante, un patient avec une toux chronique, mais ces patients peuvent avoir un taux d'incontinence plus élevé. Donc, possiblement, on va comme peut-être plus virer vers la radiothérapie. Également, il y a des patients qui sont beaucoup plus malades, qui ont des problèmes cardiaques sévères, qui ont des problèmes de maladies vasculaires périphériques sévères, que des autres maladies sévères pour lesquelles ils ne sont pas des bons patients chirurgicaux. Évidemment, on va les plus virer vers la radiothérapie. Par contre, il y a certains patients qui ont déjà une radiothérapie, mettons, du côlon, un cancer de rectum, dans lequel ils ne peuvent pas recevoir une radiothérapie. Donc, ce patient, on va plus conseiller chirurgie. En fin de compte, c'est plus le patient qui choisit, mais on essaie de guider un peu quand eux, ils ne savent pas quoi de faire. Puis l'autre recommandation que je donne aux patients, c'est que s'ils connaissent quelqu'un qui a déjà eu un des deux traitements ou qui connaît quelques personnes qui a eu les deux traitements, de parler avec leurs confrères, avec leurs amis, de s'informer avec quelqu'un comme personnel, comment ils ont trouvé le traitement, comment ils ont passé à travers. Puis s'il recommande le traitement.
Justement, là, parlant de traitement, puis vous avez abordé ce sujet-là, là, la gestion des attentes, s'assurer que les patients ont des attentes réalistes. Bien des fois, quand on reçoit des questions de la part des patients qui communiquent avec nos infirmières, on peut voir tout de suite que certaines attentes ne sont pas nécessairement réalistes par rapport à un choix de traitement là, qu'ils sont prêts à faire. Donc, j'aimerais revenir justement sur ce point-là. Lorsque vous discutez des options de traitement, comment vous aidez les patients à avoir vraiment des attentes réalistes en termes de résultats de traitement, particulièrement au niveau des effets secondaires, puis pour le cancer avancé au niveau de la survie?
Pour les effets secondaires, moi, c'est sûr quand on regarde des effets secondaires, surtout pour la chirurgie, c'est la fonction érectile, puis c'est des symptômes urinaires, surtout c'est l'incontinence. Pour ce qui concerne la fonction érectile, il y a trois facteurs prédictifs. Un, c'est l'âge. Donc, quand tu es plus âgé, c'est sûr que la fonction va être moins bonne en post-op. Puis également, probablement, ton fonction érectile est moins bonne déjà. Deux, c'est le tabac. Si un patient qui fume, c'est sûr qu'il va avoir une moins bonne fonction post-opératoire. Les vaisseaux sont moins bons. Puis également, un patient chez qui a une maladie plus agressive dans laquelle on ne peut pas essayer de sauver un nerf ou peut-être les deux nerfs, à ce temps-là, il y a moins de chances d'avoir des bonnes érections post-op. Il faut regarder également des résultats réels. Je ne suis pas certain que des patients aient accès aux des études dans la littérature, mais il y a quelques études qui sont publiées, ce qu'on appelle single surgeon experience. Ça veut dire que c'est une centre d'excellence qui va publier des résultats en disant, puis ils vont mettre ça sur leur site web également, surtout aux États-Unis, que la fonction érectile est 90% après nos chirurgies. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand des patients remplissent des formulaires, des questionnaires pas faits par leur chirurgien et par leur centre, qui est fait plutôt par une base de données fédérale aux États-Unis qui s'appelle SEER, le taux de fonction érectile est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bon que ce qui est publié par des centres d'excellence, en guillemets, aux États-Unis. Il faut que les patients aient une attente réaliste. C'est à peu près un homme sur quatre post-chirurgie qui va faire une érection facilement. Par contre, il y a toujours des traitements qu'on peut donner aux patients pour avoir des érections, dont les inhibiteurs de PDE5, dont le Viagra ou l'autre. Puis également, il y a même des patients pour lesquels une fonction érectile est assez importante qu'on peut donner aussi des injections dans le pénis. Mais on essaie d'expliquer aux patients chirurgicaux. Pour nous, le plus important, c'est l'oncologie. On veut que tu sois en vie dans 5 ans, on veut que tu sois en vie dans 10 ans. Puis pour ça, on est capable facilement de donner des chiffres avec une certaine certitude autour de 80% basés sur les bases de données des patients des États-Unis. Ça, c'est facile. Puis pour des effets secondaires, chirurgie, fonction érectile, moi, ce que je combine des vrais chiffres des études d'un troisième auteur. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas fait la chirurgie, mais qui regarde la qualité de vie des patients d'un troisième endroit. Puis, je dis aux patients, c'est ça qui est publié. Puis, je leur dis également, honnêtement, pour moi, ce qui est important, c'est l'oncologie. Je veux que tu sois en vie. Deux, je veux que tu sois continent. Puis toi, dans un monde idéal, que tu as des bonnes érections. Mais il n'y a aucune garantie, puis il faut qu'on soit honnête avec nos patients. Pour la continence, je peux vous dire qu'en général, des patients, je dirais 90% des gens, dans mon expérience, à 3 mois, alors ça veut dire qu'en post-op, d'ici 3 mois, une bonne continence. Il y a un autre 5% qui va toujours porter une couche à vie. Puis un autre 5%, peut-être un autre 3-4% qui va porter plusieurs couches. Puis peut-être 1 à 2 patients par 100 qui va mériter ce qu'on appelle une autre procédure pour avoir une continence normale, dont un sphincter ou dont une bandelette. Alors, c'est ça qu'on essaie de donner comme renseignement aux patients. Pour ce qui concerne le traitement de radiothérapie, des effets secondaires importants, c'est l'hématurie, c'est le sang dans l'urine lors de traitement, mais surtout après. Également, le sang dans les selles, puis surtout après. Les problèmes avec la radiothérapie ne surviennent pas lors de traitement. Oui, des patients sont un peu fatigués lors de traitement, mais c'est vraiment des années plus tard. Parce que l'effet de la radiothérapie n'est pas tout de suite. Ça donne un effet dans quelques années sur les vaisseaux. Puis ce qui se passe, c'est que quand des vaisseaux meurent dans quelques années, l'apport sanguin au-dessus est moins bonne. Puis quand tu n'as pas un bon apport sanguin, elles deviennent fibrotiques et dures. Puis c'est ça qui cause des saignements dans la vessie, puis c'est ça qui cause des saignements dans la prostate, puis c'est ça qui cause des saignements gastro-intestinaux. C'est sûr qu'en 2023, les radio-oncologues sont capables de mieux cibler l'organe puis essayer d'avoir moins de dommages collatéraux. Mais il y a quand même encore un autre 1-3 % des patients, peut-être 1 sur 30, qui vont avoir des problèmes urinaires ou intestinaux à vie.
Vous avez des questions, des préoccupations, des inquiétudes? Contactez-nous 7 jours sur 7 au 1-855-899-2873 pour discuter de façon confidentielle avec une de nos infirmières spécialisées en uro-oncologie qui prendra le temps de vous écouter et de vous fournir des réponses éclairées. L'équipe de soutien Procure est là pour vous.
Comment est-ce que, à travers l'incontinence et puis la dysfonction érectile dont vous avez parlé, comment est-ce que les patients peuvent se préparer activement là, pour réduire les effets secondaires après leur traitement?
Ça, c'est sûr. C'est pour la fonction érectile, c'est sûr qu'il y a quelques affaires que tu peux faire si quelqu'un fume, mais de cesser de fumer. Ça peut l'aider énormément. À part ça, il n'y a pas de grand-chose que le patient peut faire dans ce point-là. Pour l'incontinence, par contre, il y a beaucoup d'affaires que le patient peut faire. D'abord, le patient peut voir une physiothérapeute, même mettons qu'il va choisir une chirurgie. Si le patient veut, on peut les envoyer voir une physiothérapeute en pré-op. Il peut apprendre comment faire des bons exercices pour renforcer des muscles pelviens. Et à ce point-là, il va préparer pour la chirurgie. Puis également, on va les envoyer en post-op, surtout d'avoir une physiothérapeute pour l'aider pour la continence. Ça ne va pas augmenter la continence, mais ça va mettre de rattraper la continence plus rapidement. La continence peut augmenter, ça peut améliorer jusqu'à 2 ans post-op. Soit quand tu vois une physiothérapeute, ça revient plus rapidement. Puis moi, je dirais, dans notre ère, en 2023, avec chirurgie laparoscopique ou chirurgie robotique, où est-ce qu'on est capable de vraiment mieux voir l'urètre, on est capable de vraiment préserver l'urètre, que la plupart des patients, 3 mois post-op, sont continents. C'est sûr qu'il y a un certain pourcentage qui ne sont pas. Puis quoi d'autre qu'ils peuvent faire? C'est sûr que quand tu as plus de poids, plus d'obèses, qu'il y a plus de risque d'incontinence parce qu'il y a plus de pression sur la vessie. Ce que moi je dis aux certains patients même en pré-op, si tu veux avoir la meilleure continence possible, tu peux même perdre quelques points en pré-op pour préparer pour ça. Puis même d'ailleurs, quand tu fais une chirurgie sur un patient qui est plus maigre, qui a moins de gras intra-abdominal, c'est sûr que la chirurgie, en général, est techniquement plus facile. On est capable de mieux voir les tissus, on est capable de mieux voir des plans. Donc, il y a même des chirurgiens qui suggèrent de perdre quelques poids si tu as un IMC élevé en préopératoire.
Puis, on a parlé des effets secondaires. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour se préparer pour les traitements standards? Si on parle de l'hormonothérapie, qu'est-ce que le patient peut faire à partir du moment qu'il commence un traitement d'hormonothérapie pour gérer les effets secondaires?
C'est sûr que des gros effets secondaires, quand on parle, c'est sûr que tu peux avoir une perte musculaire, tu peux avoir une perte osseuse. Avec cette perte osseuse, si tu prends des hormones pour longtemps, pas une période de 18 mois avec un traitement local, mais si quelqu'un est métastatique, c'est sûr qu'elle prend ça à vie. Mais le risque de fracture augmente, puis c'est un risque cumulatif. Alors, le risque après 5 ans plus qu'après 1 an. Ce qui est suggéré, évidemment, c'est de prendre des pilules de calcium et vitamine D. Ça, c'est nécessaire à 100 % Il y a certains patients chez qui sont déjà connus ostéopénie ou ostéoporose, mais eux vont recevoir des traitements plus actifs contre ça. On peut donner chez des gens Prolia, un médicament qui va l'aider de garder les os en santé. Également, l'exercice, surtout l'exercice weight-bearing, d'avoir des poids sur les muscles, va l'aider pour empêcher la perte musculaire. L'autre effet secondaire que des gens perçoivent, ça peut être des changements cognitifs avec des hormones. C'est sûr qu'un patient qui est impliqué dans la vie, ça veut dire qu'il a une vie sociale. C'est important de parler aux amis, c'est important de parler avec ta famille. C'est également important de faire des tâches qui vont stimuler ton cerveau. Ça peut être plusieurs affaires, ça peut être de regarder, c'est de lire un livre, ça peut être d'assister à une conférence, ça peut être de travailler encore, mais n'importe quoi, ça peut être un casse-tête qui va stimuler ton cerveau. C'est sûr, va empêcher, puis ça va éviter des changements, va l'aider pour éviter des changements cognitifs. Également, l'autre effet secondaire, quand on parle avec des hormones, c'est un changement de risque pour des événements cardiaques. C'est sûr que sans testostérone, les risques d'événements cardiaques augmentent. Ça, c'est clair. Puis comment on peut baisser le risque de ça? Mais c'est d'affaire de style de vie, plus d'exercice, une bonne diète avec moins de gras saturé. Essayer d'être à la dehors en nature, de faire l'exercice comme je vous avais dit. Également, si tu fumes, de cesser de fumer. De contrôler le diabète si vous avez le diabète, puis également de contrôler votre niveau de lipides si vous avez une dyslipidémie. Ça, c'est des affaires en travers une médecine famille ou un interniste. Mais tous des facteurs de risque pour des événements cardiaques devraient être contrôlés chez des gens qui reçoivent un bloqueur de testostérone.
Puis vous, quand vous voyez vos patients en termes de suivi, est-ce que vous voyez ces changements-là? Est-ce qu'ils apportent ces changements-là? Est-ce qu'ils sont prêts à faire ces changements-là quand vous discutez avec eux puis que vous faites vos suivis avec eux?
C'est sûr que moi, j'essaie de m'enseigner comme urologue en traitant de cancer de vessie, en être très sensibilisé au tabac. C'est sûr que chaque patient chez qui, quand on sait qu'elle fume, on va suggérer de cesser de fumer. Également, on offre de donner une ordonnance pour un médicament ou une patch qui peut l'aider à cesser de fumer. C'est sûr qu'on va parler de ça. Puis on va aussi glisser une mot, c'est des affaires de le syndrome métabolique, surtout des facteurs de risque pour des problèmes cardiaques. Mais c'est sûr, en fin de compte, c'est un médecin de famille ou un interniste qui va gérer ça médicalement. Malheureusement, il y a beaucoup de patients maintenant en 2023 au Canada qui n'ont pas de médecin de famille, que leur médecin de famille a peut-être pris sa retraite, qui ne sont pas capables d'avoir un autre, qui gère les médicaments à travers ce qu'on appelle des walk-in cliniques. Puis c'est pas facile pour ces patients d'avoir une bonne, d'être bien encadré pour mieux gérer leur maladie chronique. Mais comme urologue, c'est pas nous qui gère, mais on essaie de sensibiliser des gens pour avoir une bonne suivi.
Et ça m'amène à une autre question. Que dites-vous aux patients qui souhaitent utiliser des suppléments naturels avant, pendant ou après les traitements? À votre avis, est-ce qu'ils ont une certaine valeur?
Je pense que si ça ne nuit pas, ce n'est pas dangereux. C'est sûr que ça coûte l'argent, ces traitements-là. C'est sûr également que souvent, les produits naturels, on va avoir des annonces que ça peut l'aider. Des fois, ça peut être basé sur une étude ou deux petites études, puis c'est pas vraiment bien étudié. Des acteurs principaux qui ont été étudiés, comme le saw, palmetto, puis le serrano rapins, ont été tous étudiés il y a peut-être 15 ans. Puis la conclusion dans les grosses études de ces produits naturels est que ça n'apporte rien aux patients. Mais si un patient ne voit pas des effets secondaires, mais c'est pour lui de prendre ça, mais on ne suggère pas des produits naturels comme tels.
Très bien, j'ai deux dernières questions pour vous. Selon vous, quelle est l'importance de l'attitude d'un patient lorsqu'il est diagnostiqué avec un cancer de la prostate?
Je pense que c'est très important, mais c'est vraiment logique. Ça fait du sens que si tu es plus positif, mais tu vas mieux recevoir un diagnostic, tu vas mieux gérer la maladie, puis tu vas être capable de mieux passer en travers des traitements qui, des fois, peuvent être très difficiles, dont chirurgie, dont la radiothérapie, dont des fois le chimio qui rend des patients fatigués, qui perdent les cheveux, peuvent avoir des autres effets secondaires. Puis c'est logique que l'espoir, c'est important, puis l'esprit de vie, c'est important, mais il y a même maintenant plusieurs études pas nécessairement juste cancer de prostate, mais chez des patients atteints par des cancers en général, qui démontrent clairement que des patients qui passent tant d'heures, qui font de l'exercice, qui gardent une attitude positive, un meilleur taux de passer en travers leur maladie. C'est clair qu'il y a quelques maladies qui n'ont pas de solution, mais pour la plupart des gens avec les maladies, avec les cancers de prostate surtout, on est capable de traiter 95 % du temps, puis des gens chez qui un meilleur espoir puis une meilleure attitude vont mieux passer en travers, c'est clair.
Où recommandez-vous aux patients de trouver des réponses à leurs questions entre deux rendez-vous médicaux ou entre deux traitements?
C'est sûr que souvent, des patients ne vont pas rappeler de toutes leurs questions lors d'une rencontre avec un médecin. Nous, on leur suggère, des fois, elle peut nous envoyer un courriel au bureau, puis on peut essayer de leur répondre. Mais sinon, il y a des très bons sites sur l'Internet. Il y a le site des urologues du Canada, Association des urologues du Canada, qui a une section très extensive qui explique beaucoup de sujets au niveau de cancer prostate. Puis les patients peuvent regarder là-dedans. Également, il y a l'association de ProCure au Canada qui fournissent un service 7 jours sur 7 avec des professionnels de santé qui sont au courant de tout ce qui concerne le cancer prostate, dont diagnostic, pronostic, thérapeutique. Puis les autres sont là pour répondre à toutes les questions des patients. Il y a également quelques autres sites disponibles, sont plus basés aux États-Unis, mais il y a le NIH.gov, qui est le National Institute of Health, qui est excellent, qui fournissent beaucoup d'informations avec des vidéos. Puis également un autre site qui est basé aux États-Unis, qui s'appelle cancer.gov, qui donne une très bonne survol sur le cancer de prostate, puis essaie de répondre à toutes les questions des patients.
Eh bien, Dr. Daniel Lewinstein, merci beaucoup d'avoir partagé ces informations éclairantes avec nous. Ceci conclut le balado d'aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui écoutent, merci de nous avoir accompagnés. J'espère que ce balado a répondu à certaines de vos questions ou préoccupations. Merci à tous et à la prochaine. Encore une fois, merci, Dr. Lewinstein. Alors, ici Marie-Christine Beauchemin pour le cancer de la prostate sans tabou.
Merci d'avoir écouté Cancer de la prostate sans tabou, un balado produit par Procure. Pour en savoir plus sur le cancer de la prostate et nos épisodes de balado-diffusion, rendez-vous sur procure.ca.